chapitre, hein, c'est la fondation de l'église de Corinthe. Après le discours de Paul à Athènes, la fondation de l'église de Corinthe. Donc c'est au chapitre 18. Et on va remarquer le soin apporté à cette, l'importance donnée à cette fondation, qui s'explique aussi par les liens privilégiés que Paul aura avec cette communauté de Corinthe, liens dont font état combien de lettres de Paul aux Corinthiens ? 4, au moins 4. Les deux que vous connaissez, et dans chacune des deux lettres, on fait allusion à deux autres lettres qui ne peuvent pas être ni la première ni la seconde que nous avons. Enfin, c'est un peu complexe, mais importe. Mais ça veut dire qu'il y a au moins 4 lettres aux Corinthiens, dont une lettre dans les larmes, la fameuse lettre dans les larmes. Voilà. Donc, et puis les voyages fréquents, donc il y a des liens très forts de Paul avec Corinthe. Alors, je ne vais pas rentrer pour l'instant dans le texte des Actes des Apôtres. Mais à propos de la fondation de l'église de Corinthe, je voudrais vous donner un certain nombre d'éléments culturels sur Corinthe. Je ne l'ai pas forcément fait pour Philippe ou pour Thessalonique, ou peu, on pourrait le faire pour chacune de ces villes. C'est un travail notamment qu'a fait notamment Roland Ménet, une des références que vous aviez notées là pour les Actes des Apôtres, d'insister, il me semble, c'est lui qui insiste notamment sur cette dimension-là. Donc tout d'abord, premièrement, cette ville de Corinthe à l'époque. C'est une ville neuve à l'époque de Paul. C'est une ville qui avait été détruite et reconstruite. Elle avait été détruite en 146 avant Jésus-Christ. 146 avant Jésus-Christ, pourquoi ? Parce que c'était illustré dans la résistance des Grecs contre Rome. Quand les Romains ont battu les Grecs, deuxième siècle avant Jésus-Christ, ils ont intégré le monde grec dans le monde romain. Du coup, Corinthe va être détruite à cause de sa résistance. C'est Jules César en 44 avant Jésus-Christ qui l'a rebâti. 44 avant Jésus-Christ, il l'a rebâti pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire pour pouvoir avoir un poste tourné vers la partie orientale de cet empire romain qui devient de plus en plus vaste. Cette ville devint une colonie romaine. Et depuis 27 avant Jésus-Christ, elle est la capitale de l'Achaïe. Alors, si vous regardez bien où est Corinthe, sur la carte que vous avez, ou n'importe laquelle des cartes que vous avez, Corinthe est un poste stratégique. Il est sur ce qu'on appelle l'isthme de Corinthe. Donc c'est un poste stratégique parce que tous ceux qui veulent aller du nord au sud sont obligés de passer par Corinthe, par la route, on est d'accord ? Et tous les navires qui veulent aller de Rome jusqu'au Moyen-Orient, soit ils passent par l'isthme de Corinthe et ils gagnent un temps très précieux, soit ils font tout le tour et il faut passer loin des îles et tout ça parce que c'est bon là. Tout le tour et ils perdent beaucoup de temps. Vous voyez ? Donc, c'est une ville à une place absolument stratégique. Elle est donc capitale d'une province. Province sénatoriale d'Achaïe dirigée par un proconsul. Et grâce à sa position stratégique aussi bien nord-sud que est-ouest, eh bien, Corinthe va devenir une ville très rapidement, très peuplée. On estime la population de Corinthe à 500 000 habitants à l'époque. et une population très mêlée. Évidemment, vous êtes dans une ville qui doit une partie de sa richesse à sa position stratégique, carrefour terrestre et maritime. Eh bien, vous pensez bien que tous les commerçants qu'ils peuvent chercheront à établir un comptoir, toutes les compagnies chercheront à établir un comptoir commercial à Corinthe. Donc vous avez une population très cosmopolite, de ramassis de gens de tout l'Empire qui se trouvent là pour une raison ou pour une autre. Il y a beaucoup de main-d'œuvre nécessaire, il y a beaucoup de travaux, donc il y a du monde. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient, d'où lui vient sa richesse? Je vous l'ai dit, sa position stratégique, c'est-à-dire que vous avez donc, voilà, je résume, mais l'isthme est là. Les navires gagnent beaucoup de temps s'ils passent par là, plutôt que de faire tout le tour. Pour passer par là, le problème, c'est que là, c'est une presqu'île. Donc là, il y a une bande de terre, évidemment rocheuse, une roche très résistante. Et déjà, dans l'Antiquité, on avait le projet de creuser un canal. Canal de Corinthe, qui existe aujourd'hui. Comme le canal de Panama ou le canal de Suez, pour faire gagner beaucoup de temps. C'est le même principe. À l'époque, on n'avait pas les moyens de creuser un canal à cause de ces dimensions-là. Qu'est-ce qu'on a fait? Deux ports. Un du côté de Rome, ici. Un du côté oriental. Déjà une ville avec un port, c'est déjà une source de richesse. Deux ports, vous imaginez. En même temps, vous imaginez aussi la dimension cosmopolite des populations liées aux activités portuaires. Et la richesse. Alors, le port tourné vers Rome s'appelle l'Ecaïon, et le port tourné vers l'Orient s'appelle Sancré. Bon, vous trouvez ça sur vos cartes. Ce qui est intéressant, c'est que comme on ne peut pas franchir avec un canal l'isthme de Corinthe, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va créer une route pour les bateaux. On va creuser une voie, une route faite de rondins de bois sur lesquels on va faire glisser les navires. Et on hisse les navires sur cette route. On débarque même pas la marchandise, sauf quand c'est des trop gros navires, mais sinon, on hisse les navires, on les fait glisser sur cette route de rondins de bois, et de l'autre côté, ils reprennent la mer. Cette route s'appelle le Diolkos. Le Diolkos, dans cette route de bateau. Alors vous imaginez du coup la fortune de Corinthe. Évidemment, il ne faisait pas ça par le pur humanisme. Comprenez bien. Voilà. Et alors, voilà ce que Strabon dit, c'est le grand géographe Strabon. Voilà ce qu'il dit sur Corinthe. Strabon, il écrit vers 7 avant Jésus-Christ. Donc on est dans un contexte proche de celui de Saint Paul. Alors, Corinthe a plusieurs qualificatifs, mais un de ces qualificatifs, c'est la ville opulente. Vous comprenez bien, avec toutes ces activités-là, cette dimension-là. Voilà ce que dit Strabon. Corinthe doit son qualificatif d'opulente à sa place de commerce maritime. Située sur l'isthme, elle commande à deux ports, dont l'un est à portée de l'Asie, l'autre de l'Italie. L'Asie, c'est la province d'Éphèse, à l'époque. Et elle facilite les échanges de marchandises entre ces deux régions si éloignées l'une de l'autre. À Corinthe également, les taxes sur les exportations ou les importations du Péloponnèse qui se faisaient par voie de terre procuraient un revenu à ceux qui tenaient les clés de l'isthme. Donc vous voyez, nord-est-ouest et nord-sud. Voilà. Position rêvée. Voilà. Et des taxes, et des taxes, et des impôts. Sans que cette situation fût à aucun moment modifiée par la suite, les Corinthiens profitèrent plus tard de bien d'autres avantages. Le concours ismique qu'on y célébrait attirait les foules. Concours ismique, ça s'appelle les jeux ismiques. Dans l'Antiquité, chaque grande cité grecque avait ses propres jeux d'athlétisme. Les plus célèbres étaient les jeux d'Olympie qu'on appelait les Jeux olympiques. Vous connaissez ça, ça vous dit quelque chose. Pas au tableau Jeux olympiques, ça. Donc, Jeux olympiques, mais il n'y avait pas que les Jeux olympiques, qui sont les plus célèbres, évidemment, et qui avaient lieu tous les 4 ans. Vous savez ça. Il y avait d'autres jeux. Il y avait les jeux de Delphes, de je ne sais pas quoi. Enfin, il y avait plein d'autres jeux. Parmi ces autres jeux, eh bien, il y avait les jeux de Corinthe qu'on appelait les jeux isthmiques, en référence à l'isthme de Corinthe. Ils avaient lieu, semblait-il, tous les 2 ans. Comme Paul est resté à peu près un an et demi à Corinthe, il a très certainement assisté à ces jeux corinthiens. Peut-être même, comme il était fabricant de tentes, on le verra, peut-être même a-t-il participé à la fabrication du village olympique, voyez, ou de, enfin, entre guillemets, évidemment, mais voilà, enfin, en tout cas, à toutes ces tentes qu'il fallait dresser tous les 2 ans pour attirer les foules qui venaient pour les jeux isthmiques. N'oubliez pas que c'est dans la première épître aux Corinthiens que Paul compare son apostolat à une course. Dans les courses du stade, tous courent pour l'emporter. Mais moi, ce n'est pas pour emporter une couronne de laurier qui va se faner, mais une couronne de laurier qui ne se fanera pas. Évidemment, il fait référence aux Jeux isthmiques, et aux Jeux olympiques de Corinthe, pour dire simplement, de manière plus moderne. Alors, les autres sources de Corinthe, en plus, non seulement il y a le commerce, non seulement il y a les Jeux isthmiques qui rapportent aussi beaucoup d'argent, mais en plus, il y a la production de bronze, qui était très célèbre dans tout l'Empire romain. La production de bronze. À tel point qu'il y a à Jérusalem, au temple de Jérusalem, une porte de bronze qu'on appelle la porte de Corinthe, parce qu'elle était faite avec du bronze qui venait de Corinthe, dans le temple de Jérusalem. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce que je souligne ça? Ça vous montre la richesse de Corinthe. Ça vous montre aussi la main-d'œuvre qui est nécessaire pour les activités portuaires, pour tous les commerces, évidemment, les comptoirs commerciaux qui se trouvaient par là, pour les jeux isthmiques tous les 2 ans, pour l'extraction et le travail du bronze. Vous comprenez? Vous imaginez bien cette population venant de partout, de petites gens, on dirait aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que j'évoque l'activité du travail du bronze? Parce que saint Paul va y faire référence dans la première aux Corinthiens aussi. Si je ne suis qu'un bronze qui résonne, et si je n'ai pas la charité, 1 Corinthiens chapitre 13, je ne suis rien. Référence locale, s'adressant à des Corinthiens, le bronze de Corinthe, c'était la spécialité de Corinthe, comme la porcelaine à Limoges ou comme... les calissons à Aix, ou une navette à Marseille, non, je ne sais pas. C'est ça? Non? Je ne sais pas trop. Ça va, c'est acceptable, ça. Bon, voilà. Voilà, et donc, on a ce témoignage d'un certain Dion Chrysostome, qui est un stoïcien du 1er siècle. Chrysostome, on connaît nous Jean Chrysostome, qui est plus tardif, ça veut dire bouche d'or, c'est un bon orateur, mais c'est un nom qui était donné avant Saint Jean Chrysostome, notamment un orateur stoïcien. Voilà ce qu'il écrit: l'homme de haut caractère tient ses épreuves pour ses plus hauts adversaires. Il combat toujours nuit et jour, non pour gagner un brin de céleri comme le premier imbécile venu, ni pour un bout d'olivier les jours de sa vie, et pas seulement quand les Éléens font leur proclamation, c'était les Jeux Olympiques, ou quand les Corinthiens pour les Jeux isthmiques, ou quand les Thessaliens pour les Jeux pythiens. Vous voyez bien, voilà. Déjà, Dion Chrysostome, stoïcien, compare le combat moral pour une vie bonne à la vraie course. Et déjà, il dit, non pas pour gagner un brin de céleri qui va se faner, vous voyez, on est proche de la comparaison du texte de Paul dans la première aux Corinthiens. Vous vous suivez pour ça? Oui. Dernière réputation, dernier élément de Corinthe. Je garde ça pour la fin. Comment? Ah, oula!
Eh ben non, justement, c'était le bronze, c'était tout ça. Pour nous maintenant, c'est vrai que c'est raisin quand même, vous avez raison. C'est, c'est non, c'est, c'était pas le cas. Ça aurait pu, parce que ça vient de là quand même, les raisins quand même. Mais à l'époque, c'était pas ça, tellement. C'est la débauche. Dans tout l'Empire romain, Corinthe était connue comme une telle ville de débauche, d'accumulation exactement, de débauche, qu'on a même fait un verbe à partir du nom de Corinthe. Corinthiazestai, peu importe, Corinthiazestai, c'est-à-dire vivre à la corinthienne, ça voulait dire vivre une vie de débauche. Et on a par exemple Épictète, hein, toujours ce stoïcien dont j'ai parlé tout à l'heure, il dit dans ses entretiens: es-tu né pour plaire à des femmes sans retenue? Faisons de toi un citoyen de Corinthe. Et tout le monde sait ce qu'il a fait. Voilà. Et donc vivre à la corinthienne, c'était assez expressif. Voilà la dernière réputation de Corinthe. C'est une ville à la mauvaise réputation. Beaucoup plus mauvaise qu'Athènes, qui a une réputation glorieuse. Vous comprenez? Là, on peut commencer, il ne faut pas forcer trop la comparaison, parce que ce n'est pas le but de Luc. Mais c'est quand même un lieu de réflexion. Voilà. Comment?
Dans Marseille.
Je vous laisse la responsabilité de cette comparaison. Ceci dit, Monsieur Panafieux avait, dans une homélie, avait pas comparé comme ça à ce point, mais il avait parlé des Marseillais un peu comme Paul parle des Corinthiens, dans les Corinthiens chrétiens. Mais voilà, mais c'est pour dire, voilà, vous voyez cette ville, je veux dire, très populeuse, grande diversité, mais plutôt à mauvaise réputation. Et bien c'est là que le Seigneur l'envoie. Et c'est là que le Seigneur a un peuple nombreux à lui dans cette ville. C'est ce qui est dit au chapitre 18, verset 9, où on a là 9 et suivant, dans une vision, ce qui est un événement rare quand même dans le. Voilà. Sois sans crainte, continue de parler, ne te tais pas, je suis avec toi, personne ne mettra sur toi la main pour te faire du mal, parce que j'ai à moi un peuple nombreux dans cette ville. Et c'était ça qu'il faisait comparer, et que Monsieur Panafieux faisait comparer les Marseillais aux Corinthiens. Il disait, je vois un peuple nombreux au Seigneur dans cette ville. C'est les sources. Voilà. Mais vous voyez bien, alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce qui va être exactement le modèle des communautés chrétiennes, c'est-à-dire la diversité. Ce que j'ai dit pour commencer, peut-être, je peux utiliser le décloisonnement. Non, j'en ai parlé un peu. Non, peut-être pas tellement. Non, c'est dans d'autres cours. Quand on fait l'aide de Saint Paul, il y a toujours un chapitre sur ce que j'appelle le décloisonnement. C'est-à-dire que la société antique est une société hyper cloisonnée. Les juifs avec les juifs et les grecs avec les grecs. On ne se fréquente pas. On ne mange pas avec des païens. Et les grecs ne fréquentent pas les barbares. J'ai inventé le mot des barbares d'ailleurs. Et même parmi les barbares, tous ne se fréquentent pas entre eux d'ailleurs, les barbares. C'est ce que disent les grecs en tout cas. Et puis après, il y a les hommes et les femmes ne se fréquentent pas. Dans la vie publique, la vie sociale. Mais également, les riches et les pauvres ne se fréquentent pas, les hommes d'origine diverse ne se fréquentent pas. Et il y avait dans les traditions religieuses antiques, du monde antique, il y avait des tas de petites chapelles, entre guillemets, qui étaient vraiment pour chacun des petits cultes, adaptés à chaque petit groupe de personnes, du même sexe, de même condition sociale, de même milieu professionnel, activité professionnelle, de même niveau de richesse, etc., etc. Et on se fréquentait très peu entre gens différents. On se réunissait entre soi. Ça, c'est le modèle même de la société antique, le cloisonnement. Eh bien, à Corinthe, et c'est pour ça que Corinthe est mise en valeur, je pense, c'est qu'à Corinthe, on a tout l'inverse. Cette population, déjà, elle est hors de tout le cadre. À Athènes, vous avez, voilà, c'est une ville bien rangée, j'ai envie de dire, comme beaucoup d'autres villes. À Corinthe, ça grouille de tous les côtés. Et on comprend, par le début de la première aux Corinthiens notamment, chez vous, il n'y a pas beaucoup de gens bien nés, de gens d'autres origines, mais ce qu'il y a d'humble dans le monde de pauvres, c'est ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est riche, ce qui a de faible, pour confondre ce qui est fort, etc. Voilà. Et puis ailleurs dans ses épîtres, Paul dira, ça s'applique très bien à la communauté de Corinthe, mais il ne dit pas qu'à Corinthe, il n'y a plus dans les communautés chrétiennes ni juif ni grec ni barbare, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, car vous ne faites tous qu'un dans le Christ. Décloisonnement. Corinthe va être comme en quelque sorte le laboratoire où, enfin, en tout cas, aussi bien là les Actes des Apôtres que les épîtres de Saint Paul aux Corinthiens nous donnent accès en tout cas à cette communauté qui sera à l'image de la population cosmopolite de Corinthe, une communauté nombreuse, une communauté cosmopolite, et donc avec des difficultés inhérentes à ces communautés. Je terminerai par là simplement.